Un texte pas si simple que cela pour ce temps de vacances, mais ce matin, je vous invite à continuer avec moi la série sur la première lettre de Pierre, une série qu'on a commencée depuis longtemps, depuis plus d'un an, alors il faut quand même qu'on la termine. Et la dernière fois qu'on a parlé de cette lettre de Pierre, c'était en juin, et nous avions parlé du fait que de faire le bien, c'était aimer la vie. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, 1 Pierre 3:10, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Faire le bien, c'est bien. Faire le bien, ça fait du bien. Mais en juin, j'ai pas trop insisté là-dessus, mais Pierre parlait aussi, en même temps que faire le bien, ça fait du bien, il parlait aussi du privilège, de cet immense privilège qui est de souffrir pour le Christ. Il nous dit, souffrir quand on fait le bien, c'est bien. Il n'ose pas dire quand même, ça fait du bien. Mais souffrir quand on fait le bien, c'est bien. Alors on a envie de dire, oui, souffrir pour le Christ, c'est un privilège. Oui, certes, mais c'est un privilège dont on pourrait se passer, n'est-ce pas? Et de la même manière, on pourrait facilement se passer des épreuves dont Pierre nous parle abondamment. Au chapitre 1, mais aussi au chapitre 2, ces épreuves qui sont imposées à ces chrétiens d'Asie mineure, qui sont des résidents temporaires, disséminés, réfugiés dans cet empire romain, qui sont quantité négligeable et négligée dans un monde qui les ignore superbement. C'est pas très encourageant tout cela, les épreuves, la souffrance. Alors que l'épître de Pierre se veut encourageante, elle pourrait nous laisser décourager ou nous faire développer en nous ce complexe que j'appelle le complexe de sauterelle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les espions qui sont envoyés en Transjordanie, au-delà du Jourdain, pour voir le pays promis, qui, soi-disant, découle de lait et de miel, et qui reviennent et qui font un constat pour le moins mitigé, qui disent « Ouais, ça a l'air bien, ce pays. Effectivement, il y a un peu de lait, il y a du miel. » Mais le problème, c'est qu'il y a des gens sur ce pays qui ne veulent pas de nous, et que ces gens sont des géants. Et ils nous disent, dans nombre, les espions, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, et c'est bien ce que nous étions en réalité. Et ces espions développent ce qu'on appelle un complexe de sauterelles. Et suite à cette déclaration de foi, nous sommes des sauterelles, ils vont passer 40 ans dans le désert, en bordure du pays promis, le désert étant un endroit tout à fait adapté pour des sauterelles. Et on pourrait développer ce syndrome de sauterelle en lisant Pierre ou simplement dans notre vie chrétienne. Mais notre ancien pêcheur de poissons, devenu pêcheur d'hommes, va tout d'un coup changer de perspective. Pierre, dirigé par le Saint-Esprit, nous amène à changer de perspective et vers un point de vue qui change tout, celui de Jésus-Christ. Et ce sont les premiers mots du passage. En effet, Christ lui-même. Et il va parler des souffrances du Christ et de sa mort, mais il va pointer vers aussi une autre vérité qui est liée aux souffrances et à la mort de Christ, comme l'anneau de Saturne est lié à la planète. Il va parler de victoire, de la victoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est victorieux, malgré les apparences qui sont souvent trompeuses d'ailleurs. Et nous pouvons l'être en lui. Voilà le thème de ce passage, peut-être pas si évident à première lecture, mais c'est bien l'idée centrale. Et on va parler ce matin de cette notion de victoire. Une victoire qui, dans le passage de 1 Pierre 3, 18 à 22, un passage un peu technique, mais une victoire qui se déploie en trois temps. Une victoire d'abord, une fois pour toutes. Pierre commence par nous parler de la mort de Jésus-Christ, une mort terrible, une mort humiliante, une mort qui ressemble à un échec. Il faut se souvenir que la crucifixion est réservée par les Romains aux criminels ou aux esclaves en fuite. Un échec patent pour Jésus et ses disciples. Mais cette mort sur la croix a été une victoire éclatante sur le mal, sur le péché, sur la culpabilité engendrée par le péché. Parce que sur cette croix, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prend sur lui tous les péchés du monde, justement. Et il prend sur lui ma condamnation, notre condamnation. C'est une mort substitutive à la place de. Le châtiment, Ésaïe 53, le prophète Ésaïe au chapitre 53 dit « Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui ». C'est une mort substitutive. Une mort même qu'on pourrait appeler, excusez-moi ce gros mot, propitiatoire. C'est-à-dire qui nous rend Dieu propice. Qui, en Jésus-Christ, la colère de Dieu, tout à fait légitime à cause du mal en nous et dans le monde, prend fin. Une mort propitiatoire qui nous rend Dieu propice. Et cette mort de Jésus-Christ, il faut le rappeler par les temps qui courent, n'est pas juste un exemple de ce que peut-être la souffrance humaine que Jésus aurait endurée pour participer aux souffrances de l'humanité, pour s'identifier à nous. Il le fait, oui, mais c'est une mort, c'est plus que cela, c'est une mort qui a des effets universels. En la mort de Jésus-Christ, le mal est vaincu, le pardon est possible, la porte d'une relation avec Dieu est ouverte. C'est une mort victorieuse. On ne peut pas en dire autant d'autres leaders religieux. Bouddha serait mort d'une indigestion. C'est un peu ridicule, comme beaucoup de morts d'ailleurs. Mais il serait mort autrement que cela n'aurait rien changé. Seule la mort du seul juste peut changer le cours des choses et elle l'a fait. Jésus est mort et le monde s'en est trouvé changé. Et cela, il est mort une fois pour toutes, comme dit le texte. Comme il est écrit au verset 18. Le mot, et c'est intéressant de voir que le mot grec qui veut dire une seule fois, c'est le mot apax, est devenu un mot français que vous connaissez tous, qui est plutôt utilisé en linguistique. Et apax, avec un H, bon, que l'on ne prononce pas en français, qui veut dire, qui désigne un mot qui ne vient qu'une seule fois dans un texte, dans un livre ou dans un discours. Apax, qui ne vient qu'une seule fois. Et c'est le mot apax qui est dans le texte. Là. Mais pour nous, cet apax prend une signification particulière. Jésus est mort une seule fois et une fois pour toutes. Et nous n'avons pas à reproduire cette mort d'une façon ou d'une autre. C'est fait, c'est accompli, tout est accompli, comme Jésus le dit sur la croix. Cela s'est passé, c'est un événement ponctuel, historique et suffisant auquel on peut et on doit se référer. Il n'y a plus à y revenir, il n'y a rien à ajouter, même pas mes propres souffrances, et certainement pas mes mérites. Une seule fois et toujours vainqueur. Et puis il y a un autre aspect de la victoire et non des moindres, c'est la résurrection de Jésus qui est évoquée par cette phrase. Mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par l'Esprit, cela ne veut pas dire de manière irréelle comme la résurrection serait une vue de l'Esprit, mais la résurrection comme étant l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre, l'Esprit, la puissance, la dynamique de Dieu. Tout est mis en œuvre pour vaincre la mort. La résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. La résurrection, une victoire tellement lumineuse qu'elle valait la peine d'être prêchée aux esprits en prison. Et je vous sens un peu interrogatif, enfin j'espère que vous l'êtes, ou vous êtes complètement endormi, mais de quoi Pierre nous parle-t-il ? C'est quoi ces esprits en prison ? Jésus qui va prêcher aux esprits en prison. Alors Luther, en fait les 500 ans de la Réforme, nous disait dans un de ses commentaires, c'est un passage obscur comme aucun autre dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas très engageant comme citation, mais on va quand même essayer de faire un petit peu de lumière sur ce passage. Et on va le faire en gardant en tête l'idée de victoire qui est dans le contexte. D'ailleurs, dans l'original, le mot « esprit », c'est dans cet esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits en prison, n'y est pas. Il y a deux autres mots, c'est « en cela ». Mais il a été ramené à la vie par l'esprit. « En cela », qui fait le lien, la victoire de Jésus par sa mort et sa résurrection. Et « en cela », Il est allé prêcher aux esprits en prison. La prédication de Christ semble être intimement liée à cette victoire, à la victoire. Le problème viendrait plutôt des esprits en prison. Alors on a pensé à un moment, pendant longtemps même, que Jésus était descendu aux enfers. Quand je vous dis « il est descendu aux enfers », vous pensez peut-être à ce symbole des apôtres que vous avez récité dans une autre vie, où après sa résurrection, il nous est dit « il est descendu aux enfers ». Comme une évangélisation de dernière minute, une seconde chance universelle. Tiens, je vais aller annoncer l'évangile aux enfers. Un petit peu comme le purgatoire, si je comprends bien, même si j'ai du mal à comprendre toute cette construction tardive. Le problème avec cette chance de dernière minute pour ceux qui sont aux enfers, c'est que cela n'est pas cohérent avec l'enseignement du reste du Nouveau Testament. Tout le monde n'est pas sauvé à la fin, Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça semble être assez clair. Et Pierre, lui aussi, parle de jugement. Il n'est pas universaliste. Nous ne pouvons pas rejoindre cette explication. Il est descendu aux enfers pour donner une chance à ceux qui y sont. Et il me semble qu'on doit comprendre différemment l'expression « il est allé prêcher aux enfers ». Surtout quand on considère que le verbe utilisé, le verbe prêcher, ne veut pas dire évangéliser, ne veut pas dire annoncer l'évangile ou le salut, mais veut dire proclamer. Le Christ proclamerait sa victoire sur le mal par sa mort et sa résurrection. Et il le ferait à des esprits qui sont en prison. Alors, qui sont-ils? J'ai lu que le mot « esprit » au pluriel désignait toujours des anges. Et le fait qu'ils soient en prison montrerait qu'il s'agit des anges déchus, qui ont été rebelles et qui sont déjà condamnés. Et le contexte du déluge montre qu'il s'agit de ce monde angélique en rébellion contre Dieu, qui sont là, dans l'attente du jugement final. Fin de la parenthèse un peu technique. Mais c'est à eux, à ces anges déchus, que Jésus proclame sa victoire par sa mort et sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et en cela, il est allé prêcher aux esprits en prison, le proclamer aux esprits en prison. Il a fait comme un détour, même s'il faut se méfier des termes géographiques, dans le monde invisible pour dire... Votre rébellion n'a servi à rien. Je suis mort et ressuscité. Je suis victorieux. Et les anges déchus doivent le reconnaître, qu'ils le veuillent ou non. Oui, même eux, les rebelles, les champions du mal, toute catégorie, doivent entendre ce passage terrible pour eux. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Comme il est dit dans Philippiens 2. Tout genou fléchira, de gré ou de force. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela pourrait paraître un peu étrange, mais on pourrait même dire que même eux, dans leur rébellion et dans leur condamnation, vont glorifier Dieu quelque part. Parce que Dieu est Dieu, non d'un petit bonhomme. Parce que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus est Seigneur de tout. Et d'ailleurs, la fin du passage est sans équivoque de 1 Pierre 3, au verset 22. Il siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. C'est bien de victoire dont il s'agit. Et cette victoire, donc, une fois pour toutes, est aussi une victoire qui a été préfigurée. Une victoire qui se prépare de longue date. Déjà à l'époque de Noé et du déluge, se dessinaient les contours de cette victoire de la croix. Et si je parle de Noé, c'est parce que Pierre en parle dans son texte. On se demande pourquoi cette histoire de Noé arrive là. En plein milieu, c'est parce que Pierre veut parler de ces événements bibliques qui préfigurent la victoire de Christ. Et le mot « figure » figure dans le texte. C'était une figure du baptême. Littéralement, c'était l'antitype ou l'antétype du baptême. Le baptême étant le type, l'anté avant, une préfiguration. Pierre fait dans la typologie ou dans la préfiguration le déluge, préfigure le baptême. Et donc, à l'époque de Noé, le salut est déjà en marche, la victoire est déjà en marche, c'est une victoire préfigurée. Alors, sans trop développer, je voudrais souligner un aspect de cette victoire dans cette histoire de Noé. Où se trouve la victoire? Quelle est la victoire dans l'histoire de Noé? On pourrait parler de la victoire de l'arche sur le déluge, elle flotte. Mais il me semble que c'est plutôt la victoire de la foi qui est soulignée dans ce récit. Jamais la foi n'a été autant mise en évidence que dans le récit de cet homme qui construit un bateau sur la terre ferme alors que la mer est à plusieurs centaines de kilomètres et que rien ne laisse présager d'un tsunami. Noé construit son arche. Et les gens regardent. Et je cite un autre texte de la Bible, « Ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » Rien de mal dans tout cela, mais ça met en évidence la foi de Noé, alors que tout le monde mange et boit, se marie et se marie leurs enfants. Lui, il construit l'arche. Et il fit en tout point ce que Dieu avait dit. Et cette phrase revient souvent dans le livre de la Genèse. Et les gens se moquent. Non seulement ils se marient et se marient les enfants, il n'y a rien de mal à ça. Mais ils se moquent. Et là, c'est un peu moins bien. Mais j'aurais fait pareil. Mais Noé construit son arche par la foi, parce qu'il croit en Dieu. C'est par la foi qu'il construit son arche et c'est par la foi qu'il entre dans l'arche avec sa famille. Un petit nombre qui sera sauvé du déluge. C'est par la foi qu'il entre dans le salut de l'arche qui préfigure le salut de Christ. L'histoire de Noé, c'est l'histoire, c'est la victoire de celui qui croit plutôt que celui qui voit, qui prend et qui jouit de l'immédiat sans regarder plus loin, comme le disait Matthieu tout à l'heure. Quand j'étais jeune, vers 18-19 ans, j'avais un copain non chrétien qui s'appelait Christophe Verstraat. J'ai dit les noms. Ouais, je devrais peut-être pas, mais j'aimais bien parce qu'il avait un côté un peu fou, un peu crazy comme ça. Mais un jour, il m'a dit, c'est dommage que tu sois chrétien parce qu'on aurait pu faire des trucs marrants ensemble. Et il me disait en quelque sorte qu'en m'occupant des questions de la foi, des questions invisibles, que je ratais l'essentiel de la vie présente, immédiate, sous mes yeux, à la portée de main. Et je dois dire qu'à l'époque, moi j'étais jeune chrétien, je me suis converti à 17 ans, ça m'a fait hésiter un temps. Mais au cours du temps, j'ai compris en fait que l'essentiel était bien là, du côté de la foi, du côté de l'invisible, la victoire. Et pour celui qui ne s'arrête pas au visible, à l'immédiat, autant qu'il fait dehors, mais qui croit sur parole à la parole de Dieu, comme Noé. Et la Bible dit en Romains 10, c'est intéressant, « Celui qui croit ne sera pas troublé. » Ce n'est pas si ridicule que de croire, même si construire une arche dans le désert pourrait le faire paraître ridicule. Celui qui croit n'est pas si ridicule que cela. Si vous croyez, vous avez, comme Marie, la sœur de Marthe, choisi la bonne part. Si vous doutez, reconsidérez les choses. Si vous ne croyez pas encore, examinez les choses. Et Pierre passe au troisième moment de cette victoire, le moment présent, au verset 21. « C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. » Vous aussi, ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Et de même que Noé et sa famille furent sauvés des eaux, de la même manière, notre arche, c'est qui notre arche? C'est le Christ, nous sauve et nous avons la victoire en lui. Alors il faut préciser là que ce n'est pas le baptême en tant que plongée dans l'élément liquide qui nous sauve ou qui nous lave. C'est le baptême en tant que représentation extérieure de notre conversion intérieure invisible, de notre acte de foi, comme Noé. Notre acte de foi en Christ, symbolisé par le baptême d'eau, enseveli avec Christ, englouti avec Christ par sa mort, dans sa mort. Ressuscité avec lui, réveillé par son esprit pour une vie nouvelle, une vie de ressuscité. Le baptême d'eau symbolise magnifiquement cette identification que je fais lors de ma conversion à la mort et la résurrection de Christ. Mort avec lui, ressuscité en lui et avec lui. Ce n'est pas l'eau du baptême qui nous lave. Elle n'est d'ailleurs pas vraiment propre ici en tout cas. Mais cet acte de foi qui nous place en Christ, c'est la foi qui sauve. Et les réformateurs ne diront pas le contraire. Pierre d'ailleurs précise, pour éviter toute confusion, que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure, c'est-à-dire pas une conscience remplie de duplicité ou d'hypocrisie. Le baptême comme un engagement. Et cette victoire, symbolisée par le baptême, est à vivre au présent, aujourd'hui. Et la fin du verset le précise, par la résurrection. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Tout ceci, cette victoire est valable, est pertinente, est cohérente par la résurrection de Christ, par sa victoire sur la croix, et sa résurrection, suivie de son ascension. Et il est maintenant à la droite de Dieu et toutes les dominations et les esprits célestes et les puissances lui sont soumis. Et le paragraphe donc se termine comme il a commencé, par la victoire de Christ. Mais pour nous se pose la question de comment vivre cette victoire dans le présent. Comment vivre cette victoire à laquelle non seulement Pierre, mais toute la Bible, Dieu lui-même nous invite à prendre part, à participer. Suis-je véritablement victorieux ? Comment être victorieux ? Comment participer à cette victoire alors que tout ce qui se passe autour de nous, en Espagne et en France et ailleurs, semble démontrer la victoire de l'autre camp? Comment parler de victoire quand je me débat, quand on se débat dans des difficultés personnelles, des relations conflictuelles, des dépendances qui nous tiennent, des habitudes qui nous détruisent, des mécanismes de défense qui nous enferment et qui nous déçoivent? Est-ce que vous pouvez dire ce matin que vous avez dans la bouche le goût de la victoire? Que vous êtes victorieux? Est-ce que vous pouvez crier victoire ce matin? Et je n'ai pas la prétention de répondre de manière satisfaisante à toutes ces questions, mais je vous livre quelques pensées. D'abord, quand on parle de vie chrétienne victorieuse, il faut se souvenir d'une chose extrêmement importante, c'est que cette victoire est en Christ. Pas en nous, pas par nos propres efforts, et surtout pas par nos mérites, encore une fois. Même pas parce que nous aurions plus de foi que les autres. Je le rappelle, la foi n'est pas un muscle que nous pouvons gonfler dans les salles de musculation spirituelle. La foi est une confiance, la foi est un abandon toujours renouvelé. Et la foi chrétienne vaut surtout pour ce qui est l'objet de la foi, c'est-à-dire le Christ. C'est en lui que nous avons, par la foi qui s'abandonne, la victoire. Jésus va dire un jour à ses disciples qui étaient tout fiers d'avoir pris autorité sur les démons. « Les démons eux-mêmes nous obéissent, » disent-ils. Pop, pop, pop. Jésus va leur répondre, « Ne vous réjouissez pas que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, que moi-même j'écris avec une plume trempée dans mon sang. » Se réjouir que nous sommes en Christ. Et c'est cette nouvelle identité qui nous donne la victoire sur les forces du mal, des puissances d'en haut ou d'en bas, sur mes mauvaises pensées qui me tirent vers le bas, sur le péché qui m'enveloppe si facilement. Je suis, dit Paul aux Romains, je suis plus que vainqueur. Littéralement, je suis hyper conquérant. Et là aussi, on a envie de gonfler la poitrine. Et on se sent hyper conquérant. Les termes sont forts. Mais il ajoute, par celui qui nous a aimés. Je suis hyper conquérant. Par celui qui nous a aimés. Et puis, deuxième pensée, la troisième est déjà inscrite, problème de... Dans cette histoire de victoire, il faut penser qu'il y a le déjà et le pas encore. Et toute la vie chrétienne est faite de cette tension entre le déjà et le pas encore. Il y a déjà toute une série de bénédictions qui sont déjà là. Deux fois déjà. La présence du Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu qui nous guide, la communion avec Dieu, la paix par la prière, la communion fraternelle. Si, si, c'est une bénédiction. Mais il reste toute une série de promesses qui sont encore à venir. Et ceux qui ont fait la préparation au baptême s'en souviennent certainement, je l'espère en tout cas, mais il y avait une rencontre où nous parlons du salut en trois temps. Et le verbe « sauver », c'est incroyable, dans le Nouveau Testament, est utilisé à trois temps, au passé, au présent et au futur. Nous avons été sauvés en Jésus-Christ, c'est la rédemption, premier temps. Deuxième temps, vous êtes en train d'être sauvés, c'est la sanctification. Et troisième temps, c'est en espérance que vous allez être sauvés, que vous serez sauvés, dans l'Épître aux Romains, au futur. C'est la glorification finale. Le salut en trois temps, et on pourrait parler aussi de la victoire en trois temps, cette victoire une fois pour toutes. Des victoires dans ma vie, dans le temps présent, et la victoire finale lors de la venue de Jésus. Et nous sommes entre les deux. La victoire une fois pour toutes et la victoire finale. Et il faut prendre conscience de cela pour ne pas tomber dans le triomphalisme. Et il y a parfois des chrétiens qui versent dans le triomphalisme où l'humilité est totalement absente. Oui, je suis chrétien, tout a changé ou tout va changer, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. Et tout devrait aller bien dans ta vie. Mais tu manques de foi. Ça, c'est le triomphalisme chrétien. Où l'humilité est totalement absente. Mais ne pas sombrer non plus dans le défaitisme, de l'autre côté, où tout l'esprit de conquête est totalement absent. Oui, je suis chrétien, mais ça ne change rien, et c'est même pire. Je n'ai aucune victoire dans ma vie. Et en tant que chrétien, nous naviguons entre ces deux extrêmes, et on a parfois le mal de mer. Et il est intéressant que les chrétiens triomphalistes ne comprennent pas les chrétiens défaitistes. Mais que les chrétiens défaitistes ne comprennent pas non plus les chrétiens triomphalistes. Il faut pouvoir se souvenir dans notre vie chrétienne, notre vie de victoire en Christ, que nous sommes entre le déjà et le pas encore. Et puis, troisièmement, quand on parle de ce temps entre le déjà et le pas encore, il faut pouvoir dire quand même que nous participons aujourd'hui, nous pouvons goûter aujourd'hui à cette victoire. Parce que même si on vit entre le déjà et le pas encore, même s'il faut se débarrasser de tout triomphalisme de mauvais aloi, je crois que Dieu nous invite à goûter dès à présent à cette victoire en Christ. Alors comment vivre de cette victoire en Christ? J'ai tapé sur Internet vivre la vie de victoire en Christ. Voilà ce que j'ai tapé. Et j'ai eu beaucoup de réponses. Sous forme de recettes de cuisine, 5 manières de vivre une vie victorieuse en Christ. Et certaines recettes étaient un peu triomphalistes, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, elles étaient plutôt équilibrées. Et que toutes, sans exception, donnaient le même conseil. Pour une vie victorieuse, il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus. Et ça rejoint un peu le premier point. Pour vivre une vie de victoire contre le mal, pour vivre une vie de victoire contre le péché tapis à ma porte, comme pour Caïn avant de tuer Abel, pour avoir une vie de victoire contre mes dépendances, contre les mauvaises pensées que me souffle le diable et ses sbires, regardez à Jésus qui est notre victoire. Dieu, dans sa Trinité, a obtenu la victoire, il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix. Il l'a ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Le travail est fait, la victoire est là et il nous la donne. 1 Corinthiens 15, 57, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. The job is done. La victoire est faite. Mais notre part, notre responsabilité, c'est de garder les yeux fixé sur lui, de rester en Christ, celui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Cette victoire, il nous la donne. Et notre job, c'est de garder les yeux fixés sur lui. Il donne, nous gardons. À toutes les attaques du mal extérieur, à toutes les les attaques du mal, qu'elles soient extérieures ou intérieures, toutes ces attaques qui me tirent vers le bas et vers le mal, je veux opposer la vérité de Jésus. Il est mort et ressuscité pour moi. Il est ma victoire, mon puissant salut, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Que le Seigneur nous donne de vivre chacun à notre niveau une vie de victoire, en lui, par lui et pour lui. Amen.